Allô, allô, ici Ciné Herri.
L'Armée des Ombres est un film franco-italien de Jean-Pierre Melville, sorti sur les écrans en 1969. Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme que Joseph Kessel écrivit en 1943. Avec cette œuvre, le romancier a tenu à rendre hommage aux combattants qui avaient été ses compagnons de combat. En 1939, Kessel est alors un grand reporter de presse et a déjà publié plus d'une quarantaine d'ouvrages. Résistant de la première heure, il a coécrit à Londres avec son neveu Maurice Druon le chant des partisans, devenu l'hymne de ralliement de la résistance. Pour cette réalisation, Melville a bénéficié d'une distribution particulièrement prestigieuse puisque l'on y retrouve une pléiade de comédiens français déjà au sommet de leur gloire. Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Meurice, Christian Barbier, Jean-Pierre Cassel, Paul Crochet, Hubert de l'Apparente, Claude Mann, Alain Motet et Serge Reggiani, entourés d'autres excellents acteurs moins connus. À noter également la participation de l'ancien résistant André de Vavrin, alias le colonel Passy, qui interprète à l'écran son propre personnage historique. La musique a en outre beaucoup contribué à créer le climat envoûtant qui s'attache à ce film. Cette œuvre d'Éric de Marsan est associée au quatrième mouvement de Spirituals for String, Chorus and Orchestra que le compositeur américain Mordon Gould écrivit en 1941 et que l'on entend quelques instants dans le film. De son vrai nom Jean-Pierre Grimbach, le futur réalisateur Jean-Pierre Melville décide en 1942 de rejoindre la France libre, installée à Londres. C'est à ce moment-là qu'il prend le pseudonyme de Melville, en hommage à l'écrivain américain Herman Melville, l'auteur de Moby Dick. En 1969, lorsqu'il tourne L'Armée des Ombres, il est déjà très célèbre. Dès l'après-guerre, il s'est en effet imposé dans le milieu cinématographique comme un cinéaste érudit et très exigeant. Son style novateur et minimaliste, voire très dépouillé et hiératique, a fait de lui l'un des principaux précurseurs de la nouvelle vague. Les cinéastes de ce mouvement rappelleront d'ailleurs souvent tout ce qu'ils lui doivent. En 1969, Melville a déjà réalisé l'essentiel de son œuvre qui compte des chefs-d'œuvre comme Les Enfants Terribles, Bob le Flambeur, Léon Morin Prêtre, Le Doulos, L'Aîné des Fers Chauds, Le Deuxième Souffle et L'Incomparable Samouraï avec Alain Delon dans le rôle titre. Sans oublier naturellement son deuxième film tourné en 1947, Le Silence de la Mer, auquel Chaos International a consacré une pastille audio. Sans romanesque aucun, L'Armée des Ombres se fonde en premier lieu sur l'expérience de Joseph Kessel. En effet, engagé dans les forces aériennes françaises libres du général de Gaulle, l'écrivain a raconté comment il avait participé à une escadrille qui survolait régulièrement la France, la nuit, pour maintenir les liaisons avec la résistance et lui donner des consignes précises. Il s'est appuyé en outre sur les témoignages de résistants en mission à Londres et auxquels il entendait rester fidèle. Comme Kessel s'en explique dans sa préface, les lieux et les noms, voire les faits, ont été modifiés. Il précise « Il fallait que tout fût exact et en même temps que rien ne fût reconnaissable. » Il ajoute « À cause de l'ennemi, de ses mouchards, de ses valets, il fallait maquiller les visages, déraciner les personnes » et les planter ailleurs, mélanger les épisodes, étouffer les voix, dénouer les liens, dissimuler les secrets d'attaque et de défense. En 1943, alors que la répression se durcit, l'occupant et Vichy traquent sans relâche les résistants, et il est donc impensable de prendre le moindre risque d'une quelconque identification. Mais ce film s'inspire aussi des propres souvenirs de Melville. Il retrace la vie d'un réseau de résistants qui intervient en 1943 dans la France occupée. Autour de son chef, Philippe Gerbier, incarné par Lino Ventura, et de la tête du réseau, Luc Jardy, joué par Paul Meurice, ses membres passent à l'action en faisant preuve de solidarité et de détermination. Leurs opérations sont décidées par Londres. Pour ce faire, ils doivent respecter une stricte hiérarchie et une discipline rigoureuse, parfois même implacable. Afin de bien assumer et conforter leur mission, ils organisent par exemple l'évasion d'un des leurs. Mais lorsque cela s'avère nécessaire pour préserver leur sécurité et défendre leur cause, ils exécutent tout aussi bien un traître ou bien abattent l'une d'entre eux qui a été arrêtée puis libérée car elle est devenue vulnérable et pourrait les livrer aux Allemands. Enfin, ils n'hésitent pas davantage à sacrifier leur propre vie le moment venu. Melville souhaitait avec son film proposer une rêverie rétrospective et nostalgique. Et comme le dit le texte qu'il a écrit et placé en exergue de cette œuvre, « Mauvais souvenirs, soyez pourtant les bienvenus. Vous êtes ma jeunesse lointaine. » Cette réalisation exalte ainsi la fraternité, le culte du héros, le respect des engagements, le code moral, la solitude de l'homme resté fidèle à ses principes et qui se tient résolument debout face à son destin. Comme l'a bien dit Kessel, la France n'a plus de pain, de vin, de feu, mais surtout elle n'a plus de loi. Le héros national, c'est le clandestin, c'est l'homme dans l'illégalité. On l'aura donc compris, ce film correspond trait pour trait au roman national gaulo-communiste que la France a construit sur l'occupation et la résistance, comme La bataille du rail et Paris brûle-t-il de René Clément, ou bien Le silence de la mer déjà évoqué. Comme le roman avant lui, il s'agit en effet d'une œuvre fédératrice qui rassemble des personnages communistes, royalistes, chrétiens, athées, juifs, des gens du peuple, des scientifiques, des intellectuels, des soldats, des jeunes, des vieux, des paysans, de grands bourgeois de la ville, mais aussi des notables de province. Le film n'est pourtant ni manichéen, ni spectaculaire ou grandiloquent. Les résistants apparaissent certes courageux, idéalistes, vertueux. Cependant, Melville les montre aussi dans toute leur ambiguïté, leur faiblesse et leurs doutes. Grave, sombre, crépusculaire, dépouillé, ce film est d'abord et avant tout une épure. Il n'entre aucunement dans la catégorie dite des films de guerre, à l'action pétaradante, violente et au rythme ultra rapide. Au contraire, son tempo est lent et le silence, souvent très lourd, occupe une place considérable. Il tient en quelque sorte un rôle à part entière. Avec le premier plan, le spectateur assiste à un défilé des troupes allemandes passant devant l'Arc de Triomphe et s'engageant ensuite dans l'avenue Hoche. Il s'agit là d'un événement cinématographique, dans la mesure où l'on n'avait jamais auparavant autorisé à filmer ces soldats foulant le pavé en ce haut lieu symbolique. Seul, l'insistance et la détermination de Melville l'ont rendu possible. Signalons plusieurs morceaux d'anthologie qui concourent à singulariser ce film et à lui conférer un cachet particulier. Première séquence d'anthologie, la fuite de Philippe Verdier, une scène magistrale réalisée par Melville et qui n'existe pas dans le roman de Kessel. Verdier s'échappe de l'hôtel Majestic, siège de la commandantour, après avoir tué un soldat allemand. Il court éperdument dans les rues jusqu'au moment où il atterrit tout essoufflé dans le salon d'un coiffeur. La scène est presque entièrement silencieuse. La tension est d'autant plus palpable et l'angoisse éprouvante. Serge Reggiani, le coiffeur, a tout compris. Il comprend et ne dit rien. Quant à Philippe Verdier, il a compris que le coiffeur avait compris. Le moment est particulièrement émouvant, d'une très grande intensité dramatique. Finalement, le coiffeur l'aide d'un simple geste. Deuxième séquence d'anthologie, l'exécution du jeune résistant Paul, incarné par le comédien Alain Liebold. Ce garçon a trahi Philippe Verdier. Il doit mourir et être effacé de l'ordre humain. Il ne s'agit pas de vengeance, ni de justice, mais simplement d'une nécessité. Dans la mesure où la résistance ne dispose pas de prison, elle doit se protéger ainsi de la manière la plus radicale des gens dangereux. Mais les anciens compagnons de Paul ne sont pas pour autant des tueurs, et le metteur en scène donne à voir leur fragilité et leur cas de conscience, partagés qu'ils sont entre la nécessité incontournable d'assurer leur sécurité et le refus de donner la mort en une exécution sommaire, de tuer un homme comme une bête. Le spectateur voit ainsi des combattants obligés de se salir les mains et d'aller à l'encontre de leurs valeurs et de leurs principes. Comme le dit si bien le masque incarné par Claude Mann, je suis d'accord, mais pas comme cela, je n'ai pas peur, mais on ne peut pas faire cela comme ça. Quant à Félix, interprété par Christian Barbier, il s'exclame « Nom de Dieu, on ne peut tout de même pas lui défoncer le crâne à coups de crosse, non ?» Troisième séquence mémorable, l'interrogatoire de Jean-François Jardy par un officier allemand, lui expliquant que s'il continue de refuser de décliner sa véritable identité, il va mourir sans que personne ne sache jamais quand, ni comment, ni pourquoi il est mort. Mort pour rien, en somme, comme s'il n'avait jamais existé. Enfin, quatrième séquence, l'exécution de Mathilde. Il s'agit là d'une exécution préventive, décidée dans le doute et le déchirement, car c'est une résistance unanimement considérée et estimée comme la meilleure d'entre eux, celle à qui chacun doit la vie. La résistante Lucie Aubrac aurait, dit-on, servi de modèle pour camper ce personnage. Melville nous montre donc un groupe de résistants dont l'engagement extrême tourne au cauchemar. En effet, ces combattants ne doivent pas se battre uniquement avec l'ennemi, mais tout autant avec eux-mêmes, leurs doutes, leurs peurs et parfois même leur lâcheté. Le réalisateur nous dépeint ainsi des êtres irrévocablement enfermés dans leur solitude. Kessel ne faisait-il pas dire à Gerbier « Sais-tu de quoi est faite la vie de l'homme illégal, de l'homme de la résistance ? Il n'a plus d'identité, ou il en a tellement qu'il en a oublié la sienne. » Ce sont donc des morts en sursis qui ont certes conscience de défendre une juste cause, mais qui ont aussi et surtout conscience qu'ils ne seront plus là pour assister à son triomphe, ce qui ajoute à leur abnégation, sinon à l'absurdité de leur combat. De manière souvent elliptique, ce film, très épuré, réussit à présenter en quelques séquences clés l'essentiel de la France de l'occupation. La présence allemande avec sa répression, sa torture et ses exécutions. Le rôle de Vichy, les camps d'internement, les gendarmes et la police parisienne. Le recrutement des résistants et leur vie au jour le jour. Les contacts avec Londres, les parachutages, les vols de nuit, les opérations pick-up, l'exfiltration par un sous-marin. Et enfin, l'errance solitaire du résistant. Les recherches et l'analyse menées par l'historien américain Robert Paxton confirmeront quelques années plus tard cette vision de Kessel et Melville. Paxton les rejoindra en effet en établissant le constat suivant. Voulant sauver l'État, Vichy a failli perdre la nation et l'État. La grandeur de la résistance, c'est d'avoir sauvé l'honneur de la nation. La grandeur du général de Gaulle, dont le réalisme à long terme fut justement l'inverse de l'irréalisme et de l'incohérence de Vichy, c'est d'avoir su désobéir à l'état du maréchal pour sauvegarder l'avenir de la nation et pour reconstituer un état. Le texte écrit pour l'écran par Jean-Pierre Melville et placé en épilogue nous apprend que Claude Ullmann, dit le masque, eut le temps d'avaler sa pilule de cyanure le 8 novembre 1943. Guillaume Vermeche, dit Le Bison, fut décapité à la hache dans une prison allemande le 16 décembre 1943. Luc Jardy mourut sous la torture le 22 janvier 1944 après avoir livré un nom, le sien. Et le 13 février 1944, Philippe Gerbier décida, cette fois-là, de ne pas courir. Dans une atmosphère sombre et toujours mélancolique, l'armée des ombres se présente ainsi comme un chant funèbre rendu en hommage aux partisans de la Deuxième Guerre mondiale.